Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la cinquième leçon. Et le sujet, c'est l'interaction multimodale. Et ça, c'est interagir avec tout le corps. Alors, on a parlé de l'interaction humain-machine. Et normalement, notre objectif, c'est d'aider les gens à focaliser sur la tâche et pas sur la technologie qui accomplit la tâche. Et la question, c'est est-ce que c'est seulement avec un clavier, un souris, un écran qu'on peut le faire? La réponse est bien sûr non. En fait, il y a ce qu'on appelle les interfaces WIMP. En français, ce serait FIMP, je pense. Mais l'idée, c'est qu'il y a les fenêtres, les icônes, les menus et les pointeurs. Et l'idée, c'est on a créé un système assez universel qui marche pour toutes les laptops comme ça, les smartphones, les tablettes. Et si on regarde, on peut voir les dispositifs et aussi cette interaction comme ça. Et tout le monde ici connaît ça. Alors, il y a plein d'avantages d'une interface WIMP. C'est un bon compromis entre l'apprentissage, facilité d'apprentissage. C'est facile à utiliser. Beaucoup de monde peut attraper les aspects informatiques facilement. Il y a un transfert de connaissances. Si je sais comment utiliser un menu dans une situation, je peux l'utiliser dans une autre situation. Et aussi, ça offre une puissance d'expression. Pas beaucoup pour les programmeurs, mais pour les gens qui veulent faire les applications assez complexes pour faire la vidéo, pour créer des documents compliqués, on peut le faire. Et c'est bien adapté aux tâches qu'on fait en 2D. Par exemple, rediriger un document ou manipuler un tableur. Mais il y a aussi les inconvénients. Ça ne passe pas bien à l'échelle. Si on a des applications très complexes, c'est super compliqué d'utiliser beaucoup de petites icônes et c'est difficile de trouver ce qu'on veut faire si on a beaucoup de fonctionnalités. Aussi, les systèmes WIMP, au début, étaient conçus pour une personne à la fois qui travaille avec une application à la fois. Et quand on commence à ajouter plusieurs personnes et plusieurs applications, ça devient de plus en plus complexe. Et aussi, il y a des autres types d'entrées et aussi travailler avec le 3D qui sont assez compliqués à faire avec système WIMP. Alors, par exemple, et c'est pas adapté aux signaux continus, par ça, je veux dire la parole, comme je parle maintenant, les gestes comme ça, c'est pas une partie de ce système. Et on a aussi les traumatismes musculo-squelettes. Ça veut dire, en anglais, on dit « repetitive strain injury », je peux casser la main, faire des choses difficiles. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas universel. Alors, Andy Van Damme, il y a 25 ans, a parlé de ce qu'il a appelé les interfaces post-WIMP. Et l'idée, c'est de réfléchir comment on peut intégrer toutes les sources en parallèle et incluant le langage naturel et les utilisateurs multiples. Pour lui, il a expliqué que le système doit détecter divers signaux produits par l'utilisateur, intentionnellement ou non. Intentionnel, ça veut dire moi je décide de faire ce geste. Le système peut aussi détecter que j'ai fait une pause, ce qu'on a vu avec le système Octopocus, quand la personne pause, même s'il ne pense pas à ça, le système peut donner une guide dynamique. On peut faire la parole, le mouvement, etc. Et l'autre côté, c'est de générer plusieurs sorties, plusieurs types de choses qui peuvent être perçues par l'utilisateur. Par exemple, parole et mouvement et des autres choses. Sullivan et Inyo, en 2004, a fait ce petit dessin qui est marrant. C'est comment l'ordinateur nous voit avec un système WIMP. Il y a seulement un œil, des petites oreilles et un doigt. Et ça, c'est normal pour toutes les interfaces standards. Mais il y a toujours une bande passante de l'interaction, ce qu'il faut réfléchir dans notre domaine. On a passé entre les cartes perforées, très très limitées, après les interfaces graphiques actuelles, clavier, souris, écran, ça élargit cette bande passante. Et maintenant, on veut ajouter la parole, les gestes, les autres choses. Et en plus, il y a des choses comme la réalité, mais ça, ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Alors, il y a plein de progrès dans les capacités de l'interface, mais ce n'est pas au même niveau que la loi de Moore. S'il faut se souvenir, ça, c'est la loi de Moore, et on voit que c'est une augmentation incroyable pour les capacités de processeur, la mémoire. Mais en fait, le processus sur la partie interface, c'est plutôt comme équilibre ponctué, comme Stephen Jay Gould a dit. Ça, c'est un biologiste évolutionnaire. Et l'idée, c'est qu'il y a une période longue qui est stable et après, le changement rapide. Alors, dans la biologie évolutive, c'est ça. Alors, on peut voir ça, c'est ce qu'on voit avec la loi de Moore. Il y a une augmentation continue qui change et change et change et change. Et chaque 18 mois, on voit une change. Alors, c'est la même chose dans certains types d'évolution, mais il a constaté que c'est la vraie évolution, c'est plus comme ça. On a un insecte ou une mythe ou, qui continue comme ça, et après il y a une forte période de change et après une période stable. Alors, pour nous, on voit la même chose. On a commencé avec l'électronique. Pour communiquer avec un ordinateur, il faut vraiment concevoir l'ordinateur. Et en fait, au début de ma carrière, on a travaillé avec les relais et l'électronique pour programmer les expériences en psychologie, pour travailler avec les singes et les pigeons, en fait. Et après, on a... Ah, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Après, on a la partie ligne de commande. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est comment programmer l'ordinateur avec les mots comme Grace Marie Hopper a montré il y a 50 ans. Et après, on a cette interface graphique, l'interface WIMP. Regarde que la ligne de... Ah, qu'est-ce qui se passe? La ligne de commande continue. Désolé, c'est trop sensible. Et l'interface graphique, ça c'est l'interface WIMP, mais ça continue, cette ligne de commande en continu, ça c'est Linux, Unix, des choses comme ça. Et maintenant, on s'intéresse à ça, avec gestuelle, tactile, parole, tout ça. Et regarde ici, on revient avec l'électronique, à des choses comme l'Arduino et des choses tout petites que les gens peuvent programmer eux-mêmes. Alors, l'avantage d'un système WIMP, c'est assez universel. Une même forme d'interaction peut répondre à plusieurs besoins. Donc c'est juste, c'est très sensible. Je pousse trop fort, il fait plusieurs. Alors, c'est un système universel. Alors, regarde notre dame ici. Elle peut faire des choses avec un tableur, ou la mathématique, ou quelque chose, faire un budget. Elle peut écrire un document, elle peut faire la musique, écouter ou composer. Elle peut aussi faire une mission pour faire un voyage à quelque part. Tout ça dans le même système, c'est universel. Alors, les interfaces post-WIMP sont plutôt spécialisées. Ils peuvent, par exemple, un petit jeune homme qui a cassé sa jambe ici. Alors, on a toute une série de choses qui sont bien dédiées à ce problème-là. Je ne peux pas programmer quelque chose, je ne peux pas écrire un document, je ne peux pas aller organiser une mission. Je suis limitée à ça, mais c'est directement lié avec la capture des informations de lui et montrer les infos aux infirmières et les médecins pour voir ce qui se passe. Alors, c'est un système dédié et spécialisé. Si on regarde ici, ça c'est aussi pour, par exemple, la composition de musique. On regarde plusieurs types d'applications qui l'utilisateur peut utiliser plusieurs langages et plusieurs styles d'interaction. Par exemple, on peut parler dans une notation musicale, comme ça. On peut travailler avec les signaux audio, comme ça. Et on peut aussi créer les structures sonores. Et chacun est possible dans ce système. Et c'est bien pour générer et organiser le son et la musique, et aussi pour créer les effets spéciaux, la composition et le spectacle vivant. On peut utiliser ça pour faire quelque chose en temps réel. En contraste, on voit la réactable, React Table, qui était montrée par Michel Baudouin-Lafont dans la deuxième leçon. Et là, c'est une interface post-WIMP. Et il y a plusieurs entrées, les gestes, les objets tangibles. La personne peut tourner chaque objet. Il y a un son et des paramètres associés avec ça. Et il y a plusieurs sorties. Il y a la musique et une table lumineuse. Ça peut être aussi projeté. Et c'est parfait pour la musique. C'est très bien pour composer, faire des spectacles en temps en direct. Mais on ne va pas rédiger un document ou équilibrer un budget. Alors, on a toujours cette boucle d'interaction où il y a l'être humain qui produit quelque chose qui est détecté par le système, là, et après, le système produit une réponse qui est détectée et interprétée par l'utilisateur. Alors, pour l'interaction multimodale, on peut interagir avec tout le corps. Et le corps inclut la voix et les gestes et les ondes dans le cerveau, tout ça. Alors, on a 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Et on peut faire plusieurs types d'actions qui peuvent être détectées par le système. Il y a les modalités d'interaction. Il y a l'idée d'un canal sensorimoteur en entrée et sortie. Et c'est important de savoir que quand on parle de l'entrée et sortie, c'est de la perspective du système. Alors, ces modalités d'entrée, c'est quand l'humain produit un signal et l'ordinateur capte ce signal. Et en modalité de sortie, c'est quand l'ordinateur crée quelque chose et c'est l'humain qui détecte. Alors, il y a plusieurs types de modalités. Les systèmes WIMP sont vraiment clavier souris, mais maintenant, si on travaille avec les choses multimodales, c'est détection de mouvement, reconnaissance d'image, reconnaissance de la parole. Et il y a aussi les modalités de sortie. On peut faire l'affichage en 2D, mais c'est aussi possible de faire des choses en 3D, en vrai 3D. On va voir ça quand on parle de la réalité augmentée et la réalité mixte. Il y a toujours son, parole, musique. Et les aspects haptiques, ça c'est le toucher. On peut capter des choses qui bougent et qu'on peut trouver la pression, la chaleur, des choses comme ça. Alors, il y a un nombre d'aspects importants à considérer quand on fait une interface multimodale. Il y a plusieurs dimensions clés. Par exemple, il y a plein de types de canaux de communication. Un canal de communication, par exemple, un canal audio, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de modalités. On peut parler, je peux fredonner, je peux faire un tap comme ça. Il y a plusieurs choses que je peux produire et le système peut produire qui marchent dans cette chaîne, canal. Il y a plusieurs types d'entrées et on a plusieurs moyens d'utiliser les mots différents. Il y a plusieurs types de vocabulaire, de reconnaissance. On peut capturer les mini-gestes comme ça, les gestes en 3D, la parole et plusieurs types de capteurs et canaux. Et bien sûr, il y a plein d'applications différentes pour... Les sujets spécialisés, ce qu'on va voir plus tard. Il y a plein d'avantages des systèmes multimodales. Il y a toute une flexibilité, une souplesse de mode de saisie. Les énoncés vocaux sont plus courts et simples. Par exemple, si je veux expliquer quelque chose, et je peux aussi pointer, c'est plus facile à comprendre ce que j'ai dit que juste avec la partie orale. Il y a en principe moins d'erreurs et c'est plus simple à corriger quand il y a deux choses en même temps. Et on peut éviter la surutilisation d'un mode. Par exemple, les problèmes de la main si j'utilise la souris trop. Ils sont adaptables à plein de tâches différentes, les utilisateurs divers. Il y a des différences individuelles et il y a aussi les environnements qui changent et évoluent. Mais, comme toujours, il y a toujours un compromis. Il y a les analyses des signaux complexes peut être tort. Par exemple, si je fais un geste comme ça, la question c'est, il a commencé quand et terminé quand? C'est très difficile de dire. C'est la même chose avec les mots. Quand je parle, les mots sont en ligne, ensemble, et c'est difficile de détecter les différences. Alors, aussi, de la perspective de l'utilisateur, il y a des problèmes de découverte. Comment l'utilisateur peut savoir que ce geste-là a un sens de quelque chose? Il faut enseigner, il faut réfléchir, pas seulement comment le système peut détecter, mais comment les utilisateurs peuvent comprendre que c'est possible de le faire. Et il y a un problème d'anthropomorphisme. Ça veut dire, si ça devient de plus en plus proche de ce qu'on fait comme les êtres humains, il y a ce que Maury a appelé la vallée de l'étrange, ou en anglais, the uncanny valley. Et il a parlé de ça par rapport aux robots, mais on voit cet effet en plein de systèmes qui essaient d'imiter l'être humain. Et on regarde ici, on commence avec un petit bonhomme, c'est clair, c'est écrit par quelqu'un. Après, ça devient de plus en plus sophistiqué et c'est bien. Et après, on commence à faire des caractères qui sont un peu trop proches, mais pas assez. Et il y a les robots qui sont vraiment pas, on n'est pas confortable. Et après, on revient à une personne réelle. Et ça, c'est la vallée étrange. C'est dans cette période-là, on est trop proche, mais pas assez proche à la réalité humaine. Alors, on voit ça beaucoup dans la chaîne, dans le canal visuel, mais moins sur la partie auditive, mais ça existe aussi. Alors, si on parle de la parole en entrée et en sortie, il faut se souvenir que la parole est éphémère. Ça veut dire que quand je dis quelque chose, c'est terminé, c'est trop tard. Si je l'ai raté, c'est pas là. Alors, si on fait l'interaction basée sur la parole, il faut avoir un contexte et il faut avoir un mode d'interaction qui colle avec cet éphémère. Alors, il faut que le système comprenne l'intention de l'utilisateur, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il est elle est en train de faire, et aussi il faut faire une réponse du système qui est adaptée à la situation. Par exemple, si je suis en train de... J'attends le bus et je pose la question, quand est le prochain bus? Le système doit savoir où se trouve moi maintenant, où se trouve le bus maintenant et combien de temps avant son arrivée. Et la réponse peut être... Il y a plusieurs types de réponses possibles. Le système peut juste reciter l'horaire complet de bus, mais normalement, ce n'est pas très intéressant pour l'utilisateur. Il peut aussi dire le prochain bus est à 9h12. Ça veut dire qu'il prend les infos directement sur l'horaire et remet à l'utilisateur. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il peut dire dans 12 minutes, parce que c'est relatif à moi dans ma situation. Maintenant, c'est plus ça ce que je veux. Ou on peut aussi combiner la parole avec le visuel et faire une carte dynamique qui montre l'emplacement actuel du bus dans l'espace et dans le temps. Et avec ça, je peux avoir toutes les infos dans une manière qui est bien liée avec ma situation particulière. Alors, je reviens à un projet, ce qui est vraiment le début des interfaces multimodales. Et ça, c'est Chris Schmant, un collègue, il était à MIT à l'époque. Et il y avait un grand contrat avec DARPA, qui est l'armée américaine. Et l'idée, c'est qu'il a créé la première interface vocale multimodale, conversationnelle et aussi collaborative. Et ce qu'il a fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir la reconnaissance des gestes dans l'espace, désignation sur un grand écran, et il y a une capture à 6 degrés de liberté et reconnaissance de la parole. Et tout est relatif. L'idée de « put that there », c'est « mets ça là ». Et « mets ça », il faut montrer l'objet et le mettre où ? Là. Alors, on va voir le système. J'ai mis un petit vocabulaire en anglais et on peut suivre ce qu'ils font.
This looks like we're back here in the Caribbean.
Regarde.
Sure does, Eric. Let's put some ships in it.
On est dans les îles Caraïbes.
Pay attention.
Soyez attentifs.
Go ahead.
Create a red oil tanker.
Ça, c'est un pétrolier.
Where?
Regarde. Where?
Il fait ça.
Create a blue cruise ship.
J'ai pas mis.
Where?
Le navire
there.
De croisière. Et là.
Make a yellow sailboat.
Bateau à voile.
What color?
Yellow.
Jaune.
Where?
North of Jamaica.
Au nord de Jamaïque.
Create a green freighter.
Il y a deux voies différentes qui sont.
Where?
North of that. Let's try one together. Sure, let's try it. Clear.
Effacer.
Clear.
Proceed.
Put that there. Protect that.
Protect, protéger ça.
Copy the cruise ship.
Copier.
Eric, do you agree?
That's acceptable.
Vous êtes d'accord, oui ou non?
Where?
North of the Dominican Republic.
Au nord de République Dominicaine.
Protect that.
Protéger ça.
Protect the freighter.
Protéger.
Copy the freighter.
Chris, do you agree?
No way.
Vous êtes d'accord?
Thanks a heap.
He rolls those out.
Alors, la raison qu'ils ont fait ça, c'est parce que c'est une situation militaire. L'idée, c'est qu'il faut détecter deux voies différentes et se mettre d'accord, parce que si on va attaquer un navire ou un cargo, il faut être sûr. Alors, une chose aussi, c'est que ça donne l'impression que tout va bien, mais ce n'est pas
Move
toujours
that
facile. Ça, c'est encore Chris.
West of the Diamond.
Et c'est juste une simulation au début.
Create a large green circle there.
Créer un cercle.
Oh, shit. Restart.
Recommencer. Voilà. Alors, le truc qu'ils ont fait, à l'époque, j'ai travaillé à Digital Equipment Corporation, ça veut dire DEC, Digital Equipment Corporation. Et on a travaillé aussi avec la parole. Et c'est un moyen de transférer, de créer les voix différentes. Et je vais juste montrer la vidéo.
35.
Il y a quatre.
Several of the deck talk voices.
Quatre voix différentes.
I am perfect Paul, the standard male voice.
C'est un homme.
I am beautiful Betty, the standard female voice. Some people think I sound a bit like a man.
I am Hugh Terry, a very large person with a deep voice. I can serve as an authority figure.
My name is Kit the Kid, and I am about 10 years old. Do I sound like a boy or a girl?
Alors, ça, c'est l'enfant. Et la raison que j'ai montré ça, c'est parce qu'à l'époque, on a créé le premier système mondial du vidéo. Et j'ai géré un groupe de recherche à DEC, et on a fait quelque chose qui s'appelle IVUS, le premier système où on peut mettre la vidéo sur l'ordinateur pour enseigner des choses. Et là, c'est un système fait avec le petit Dwayne, un petit bonhomme, caractère fait par un artiste qui a travaillé avec nous. Et il est animé, je suis désolée, vraiment c'est triste, c'est la seule image que j'ai de l'époque parce que et c'était pris d'un vidéo. Bon. Mais l'idée, c'est qu'il a dansé et faire des choses pour montrer comment réparer ce système qui était la boîte Ivis. Et on a fait ce tutorat que j'ai expliqué la semaine dernière. Et on a utilisé des voix différentes. Et on a vu que quand il parle avec Kit, la voix de Kit, l'enfant, les réponses des utilisateurs, c'était beaucoup plus simple. Et pour nous, beaucoup plus facile à interpréter. Alors, on peut influencer comment l'être humain répond à nos questions dans cette conversation. Si on dit, alors, il n'est pas capable de comprendre tout, alors, il faut faire attention, faire les choses plus simples. Alors, il y a aussi une autre chose où on profite du fait que les êtres humains travaillent, faire des choses dans une manière assez facile à organiser. Ça, c'est encore Krishmant avec Barry Ahrens, quelques années plus tard. Et l'idée, c'est comment faire un message sans interpréter tout ce qui était dit, mais guider l'utilisateur à enregistrer des choses importantes. Alors, ça, c'est Phone Slave.
Hello, Chris is telephone speaking. Who's calling, please?
Ça, c'est le téléphone de Chris.
What's this in reference to?
I'd like to obtain some information about the phone project at the Architecture Machine Group.
Elle pose une série de questions.
He's not available at the moment, but he left this message.
I'm out at a lunch appointment. I should be back in my office after 2:30 this afternoon.
At what number can he reach you?
Area code 315-667-7900.
Elle fait une pause.
When will you be there?
Any time after 6 this evening.
Can I take a longer message?
Yes, I understand that you're working on a telecommunication system that uses speech recognition to identify callers, and I'd like to obtain some copies of any work you have published in this area.
I'll make sure he gets that. Thanks for calling. Goodbye.
Et après, quand Chris revient à son bureau, il peut regarder ses messages vocaux, mais bien organisés.
This is Jeff Keast.
Alors,
I'd like to obtain some information about the phone project at the Architecture Machine Group. Area code 315-667.
Il peut écouter les morceaux d'infos
intéressants. Yes, I understand that you're working on a telecommunication system that uses speech recognition to identify.
Et voilà, il écoute et il traduit les infos. Alors ça, c'est un bon exemple de guider l'utilisateur à faire des choses dans une manière que c'est plus facile pour l'autre personne d'interpréter après.
Yes, I heard that your phone system uses touchtones as backup for voice commands. So I just sent you some mail about touchtone decoders that I'm using.
Et voilà, je pense que je vais arrêter là. Alors, il y a aussi le concept de la perception directe de Gibson. On a déjà parlé de ça dans la première leçon. Et ce qui est important, c'est de comprendre que la perception de l'interaction, en percevoir l'interaction qui provoque le son, pas le son lui-même. Ça veut dire, si... Non, je vais faire encore une fois. On entend une porte qui se ferme. Ce n'est pas tous les signaux qu'on peut détecter, c'est l'effet de cet événement qui est perçu comme nous, comme une action. Alors, il y a Bill Gaver, aussi un collègue, Sophie l'a fait ça à Apple avant que je l'ai rencontré, on était ensemble à Xerox PARC, et il a fait le Sonic Finder. Et l'idée, c'est qu'il y a des icônes auditives où les sons correspondent aux caractéristiques des objets, et les objets informatiques et les interactions qui les ont produits. Et je donne ça. Alors, ça c'est.
My name is Bill Gaver, and this is the Sonic Finder, which is a prototype auditory interface that I developed. And in this interface, many of the events are associated with sound as well as graphical feedback. So I can select files, drag them around, open windows and so forth. At this point, I'd like to show you in more detail what the Sonic Finder does.
Selecting
objects in the Sonic Finder makes sounds. And those sounds depend on the type of objects, so that folders make one sort of sounds, applications a second, files a third, and disks yet another sound. The sounds also depend on the object's size, so that small objects, like this small folder, make higher sounds than large objects, like this large folder. And that principle continues through to applications, files, and so on. Disks make sounds that depend on how much room they have left. So this floppy disk, which can't contain too much more information, makes a higher sound than this hard disk. In this way, I get immediate feedback from selecting objects, and sounds also provide information about the objects' sizes and their types. Now we'll look at ways that sound provides other sorts of information in this interface. When I drag an object, it makes a continuous scraping sound that stops only when I release it or when I hit a container, like a folder, a disk, or the trash can. This helps me avoid the common mistake of either missing a target or inadvertently dropping an object into a container. Like the visual icons, the sounds used in this interface are meant to build upon people's experience with the everyday world. For instance, when I open a window and scroll down it, the sound lets me know very easily whether I'm near the top or the bottom. When I copy a file, the pouring sound makes it very clear how far the copy has progressed and when it's done. And since I don't want the copy, I can drag it to the trash can and throw it in and know that it's gone.
Voilà. Alors, c'est intéressant aussi, chaque fois qu'il y a des questions de qu'est-ce qu'on fait dans la recherche et est-ce que ça arrive dans les entreprises, il y a plein de choses où la réponse est non. Pour Bill, c'était fait à Apple comme un projet de recherche et on ne voit pas les icônes auditoires maintenant. L'un des problèmes, ce qu'il a dit, c'est que quand on fait une présentation comme ça, c'est trop fort. Et en fait, le vrai système, les sons sont très peu et on peut ajuster. Alors, ce n'est pas embêtant, mais s'il y avait le son très fort, comme on fait dans une présentation, c'est embêtant. Mais là, c'est une autre chose. Il y avait toute une série de projets où on utilisait la capacité humaine de fredonner une chanson et faire la recherche de musique par fredonner. Et c'était quelque chose fait il y a 10 ans. Et maintenant, c'est un produit Google. Ça, c'est l'entrée.
Ah, come on.
What's that song?
Alors, de temps en temps, on a des réussites. Bon, maintenant, je vais faire une transition entre le son et les gestes. Ça, c'est un projet fait à IRCAM avec l'un de mes étudiants, Jérémy Garcia, et son collègue Guillaume. Et l'idée ici, c'est une partie des aspects tangibles qu'on va parler la semaine prochaine. Mais l'idée ici, c'est qu'on veut dessiner sur le papier. Et c'est le papier augmenté, ça veut dire qu'on capturer tout ce qui est écrit. Et il y a une petite palette, et la palette, ce n'est pas de couleur, bon, c'est de couleur, mais aussi une palette de sons. Et l'enfant peut capturer les sons dessinés sur un paysage, et après, un autre enfant peut... pourquoi ? Ah, la vidéo ne joue pas. Ah, dommage. Bon, je vais expliquer. Alors, il y a un enfant qui dessine, par exemple, le vent et de l'eau et les oiseaux quand le soleil revient. Et avec ça, il peut créer un espace avec le son quand je suis dans cet espace. Et cet espace est projeté sur le, par terre, et un autre enfant peut bouger dans cet espace pour écouter le vent et de l'eau et les oiseaux. Alors, c'est très joli, mais je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, quand on fait l'interaction avec le corps, il y a toute une série de choses qu'on fait. Avec les projets WIMP, il y a toujours le doigt, avec le toucher, pression, plusieurs doigts, pas seulement deux, comme un pinch, comme ça, mais on peut utiliser tous les doigts, multitâche, souvent avec les tables ou les tablettes. Une main, unimanuelle, ça c'est souris, stylo, ce qu'on a déjà vu. Et deux mains, clavier bien sûr, mais aussi deux mains sur les tables. Alors, on peut aussi capturer le regard de quelqu'un comme un mode d'entrée. On peut regarder les muscles, la pression, plein de choses. Le Mio, par exemple, capture la contraction du bras. Il y a plusieurs moyens de capturer soit la position du corps ou soit la capture de tous les détails de motion. Ça, c'est un système mocap. Connect, on va voir, et Vicon, c'est un système très développé pour Hollywood. Et bien sûr, il y a aussi tous les signaux du cerveau, mais aussi du cœur et tous les autres signaux qu'on peut produire. Et là, on peut capturer plein de choses avec l'utilisateur. Alors, si on revient dans l'histoire, le premier système multitouch, c'était fait à l'Université d'Illinois, un système qui s'appelle Plato. Et c'était pour l'enseignement par l'ordinateur. Il n'y avait pas beaucoup de pixels, il n'y a pas beaucoup de place, il peut capturer un seul touche. Et un peu plus après, Bill Buxton, en 1995, a fait la première tablette capable de détecter plusieurs points simultanés avec leur pression. Ce qui est intéressant, c'est Bill Buxton, c'était un musicien professionnel. Et il était aussi lié avec l'Université de Toronto comme prof. Mais c'était pour lui qui a vraiment poussé les limites de comment on peut interagir, parce que les artistes, les musiciens, n'utilisent pas seulement un clavier, mais ils veulent bouger leur corps. Alors, si on voit, ça a pris 30 ans pour le iPhone 6S de faire un écran multitactile sensible à la pression, comme ça. Alors, ça fait longtemps pour faire les progrès dans un sens, des fois. Alors, ça, c'est un écran de Jeff Hahn qui est tactile et c'est pour une grande table d'interaction. On voit ça, ça c'est un produit maintenant qui est vendu et utilisé par CNN et les autres groupes journalistes. Et c'est un système où il y a en fait une caméra infrarouge derrière. Et il capte les doigts comme ça, il peut les distinguer. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est Jeff.
Here's an example, another kind of app. I can kind of make these little fuzz dolls. It'll kind of remember the stroke I'm making. Of course, I can do it with all my hands. It's pressure sensitive, you can notice.
Pression.
But what's neat about that is, again, I showed you that two-finger gesture allows you to zoom in really quickly. Because you don't have to switch to a hand tool or the magnifying glass tool, you can just kind of continuously make things in real multiple scales all at the same time. I can create big things out here, but I can go back and really quickly go back to where I started and make even smaller things here. Now, this is going to be really important as we start getting to things like data visualization. For instance, I think we all really enjoyed Hans Rosling's talk, and he really emphasized the fact that I've been thinking about for a long time, too. We have all this great data, but for some reason, it's just sitting there. We're not really accessing it. And one of the reasons why I think it is is because of things like graphics. It will be helped by things like graphics and visualization and infoviz tools. But I also think a big part of it is going to be starting to be able to have better interfaces to be able to drill down into this kind of data while still thinking about the big picture here. Let me show you another app here. This is something called Whirlwind. It's done by NASA. Now, it's kind of, we've all seen Google Earth. This is kind of an open source version of that. There are plugins to be able to to load in different data sets that NASA's collected over the years. But as you can see, I can use the same two-finger gestures to kind of go down and go in really seamlessly. There's no interface again. It really allows anybody to kind of go in and just does what you'd kind of expect, you know. Again, there's just no interface here. The interface just kind of disappears. I can switch to different data views. That's what's neat about this app here. There you go. NASA's really cool. They have these hyperspectral images that are kind of false colored, so you can, it's really good for determining vegetative views. Let's go back to this. Whoops. Now, the great thing about mapping applications, it's not really kind of 2D, it's kind of 3D. So again, with a multi-point interface, you can kind of do a gesture like this. So you can kind of be able to tilt around like that, you know. It's not just simply relegated to this kind of 2D panning and motion. Now, this gesture that we develop, again, it's just kind of putting two fingers down, it's kind of defining an axis of tilt, and I kind of tilt up and down that way. That's just something we just came up with on the spot. You know, it's probably not the right thing to do, but it's such interesting things you can do with this kind of interface. And it's just so much fun playing around with, too. And okay, so the last thing I want to show you is, you know, I'm sure we can all think of a lot of entertainment apps that you can do with this thing. I'm a little more interested in the kind of creative applications we can do with this. Now, here's a simple application here. I can kind of draw out a curve. And when I close it, it becomes a character. But the neat thing about this is I can add control points, and then what I can do is kind of manipulate them with both of my fingers at the same time. And you notice what it does. It's kind of a puppeteering thing where I can use as many fingers as I have to kind of draw and make. Now, there's a lot of actual math going on under here for this kind of to control this mesh and do the right thing. I mean, this is a this technique of being able to manipulate a mesh here with multiple control points is actually something that state of the art was just released at SIGGRAPH last year. But
je vais arrêter là, mais c'est l'idée que on peut utiliser les 10 doigts dans une manière assez intéressante. Voici un autre projet. On peut communiquer avec les mains et on peut créer un vocabulaire de gestes très large si on utilise les accords. Ça veut dire, je mets les mains comme ça, et il y a plusieurs accords. Mais pour faire ça, il faut regarder les propriétés de la main réelle. Si je peux bouger la pouce et l'index beaucoup, mais ce doigt-là ne bouge pas beaucoup. Et le petit doigt est lié avec l'annulaire. Alors, la question, c'est, on peut créer un vocabulaire large avec les mains, et il faut aussi trouver un moyen d'enseigner comment le faire. Et ça, c'est le système arpège fait par l'un de mes étudiants, Olivier Beau, et plusieurs autres. Et là, il a constaté qu'il y a les choses relâches, ça veut dire juste comme ça, et il y a toute une série, il y a un vocabulaire de plus de 40 accords qu'on peut lier avec les commandes différentes. Et le système capture les positions des doigts, et pour faire des choses. Et après, on peut associer les petites étiquettes pour expliquer quoi faire. Alors là, il montre dans le coin, c'est ce qui a été vu par le système, et on regarde le truc en rouge, ça c'est le petit « qu'est-ce que vous voulez faire ?» faire ça, et il montre comment organiser les doigts. Et c'est lié avec le concept d'arpeggio. En musique, c'est le fait qu'on fait une série de doigts et on montre comment le faire. On a utilisé cette idée pour un autre projet qui s'appelle Dynacord. Ça, c'est un projet avec Lee et Steve Feiner à Columbia, ce qu'on a fait ensemble. Et là, l'idée, c'est qu'on veut utiliser les deux mains. Et aussi, ce n'est pas juste pour faire une commande, mais changer un paramètre lié avec la commande. Je fais un brosse et je veux changer la couleur de ce brosse. Alors ça, elle est en train de dessiner. On peut créer les commandes, les accords différents, il les donne et après, elle peut, ça c'est aussi un autre système tactile ici, et elle peut changer, elle a créé ce changement de couleur et on crée une série de couleurs en même temps. Alors ça, c'est la main non dominante qui fait le choix de couleur et la main dominante qui fait le geste. Je reviens dans l'histoire et ça, c'est un projet fait par Michel Baudouin-Lafont ici et Thomas Baudel. Et là, l'idée, c'est comment on peut utiliser les mains dans les situations, les mains libres dans une situation réelle. C'est pour la présentation comme ça. Alors, regarde, j'ai ce truc-là. Ce serait peut-être plus facile si j'avais ma main pour contrôler les transparents. Mais le problème, c'est que j'utilise mes mains pour m'exprimer. Et il faut distinguer entre mes gestes naturels, on peut dire, liés avec la parole, et les gestes qui sont les commandes. Alors, ils ont créé un système où il y avait tout un vocabulaire de gestes pour les mains, les gestes qui sont tenses, pas relâche, mais faire ça, je fais ça pas naturellement, alors je peux utiliser cette gamme de gestes possibles pour contrôler le système. Et il y a tout un vocabulaire de ça. Alors, on a toujours cette rêve de les mains libres, et je vais juste remettre Minority Report parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde ça et dit « Ah, ça, c'est la science-fiction qui vient de Hollywood, et pourquoi les chercheurs ne peuvent pas penser comme ça ?» Et en fait, si on regarde Tom Cruise en train d'utiliser ça, tout ça était influencé par John Underkoffler, qui était chercheur à MIT, qui a lu toutes les choses que j'ai montrées, plus les autres choses, pour visualiser dans une manière beaucoup plus jolie ce que nous on fait dans la recherche, mais cette interaction avec la main, avec un gant, ce qu'on appelle un data glove, pour capturer les choses, on voit les points, il peut bouger. Il peut faire la recherche, il cherche les images, les situations, les clips vidéo. Ils ont un visiteur qui arrive, qui met les infos de plus. En fait, ce n'est pas du tout pratique un truc transparent comme ça. C'est joli pour l'image, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut dans la vraie vie. Et je vais juste montrer ce qui se passe. On ouvre les mains, les deux. Et cherche.
Gun in the foxhole, 4421 Gainsborough.
Send a DCPD blue and white. Set up a perimeter and tell on route.
Investigator from the feds here.
Yeah, I don't need some twink from the fed poking around right now.
John, I wrote down in your calendar and left you a message at your house.
Checking with the papers ahead of four to see if the neighbors know where they went. Check all relations.
But John,
Fletch, just get him some coffee. Tell him some stories how I save your ass every day and you can't live without me.
I got coffee. Thank you. Danny Woodward.
Et regarde ce qui se passe. Il y a une confusion entre l'utilisation de mains pour contrôler le système et pour serrer les mains de quelqu'un. Elle est complètement personne. Alors, ils ont bien compris des choses, mais la réalité, c'est beaucoup plus ça. J'ai déjà montré cette image, ça c'est mon étudiant Julie Wagner, et avec cette comparaison des systèmes unimanuels, ça c'est un gant avec les petits points, et nous avons un système de, qui s'appelle Vicon. Il capture les réflexions de chaque petit point, et on a une précision, on peut détecter la précision et la position de chaque main très facilement. Et on peut comparer les gestes et regarder comment ça se passe. Alors, je reviens dans l'histoire. Ça, c'est un système bien connu qui s'appelle VideoPlace. Ça, c'est Myron Kruger qui était, c'est 1974. Et il a travaillé avec les artistes. Et il avait l'idée de faire les choses avec les gestes. Et c'est assez simple ce qu'il a fait. Il a fait l'ombre de l'être humain et utilisé ça, projeté pour interagir avec. Mais il a fait ce que moi, il n'a pas appelé ça, mais c'est la conception participative. Il a travaillé avec les artistes et eux, ils ont créé plein d'idées avec lui pour faire des choses. Et ça, ça a influencé le caméra iToy de Sony, que mes enfants ont utilisé beaucoup à l'époque, et le Kinect de Microsoft. Et c'est beaucoup d'influence sur les jeux vidéo. Alors, je regarde. Cette idée d'avoir
So in the first
on peut dessiner, et ça vient, cette idée vient des artistes avec qui il a travaillé.
Data tablet in the computer
mais
center
il
in
a
Wisconsin,
cette interaction
and
directe,
I drew on
et
that
ça
data
fait
tablet, what I drew
presque 50 ans
screen.
Maintenant.
Was transmitted a mile away to the gallery where it was superimposed on the live image of people. And what they saw was the projected image of themselves and graffiti that I was drawing on top of them.
Il a dessiné
and
sur
then together
eux,
we
eux,
invented
dit, ce serait bien si moi, je peux
a medium. So it by accident occurred that they were, one day I was following somebody's finger. And it looked like they were drawing. They thought they were drawing, and all of a sudden,
je pense que je vais passer. Il y a toute une série de choses. Alors, ça, c'est un projet qui est fait par Joe Malik, qui était un postdoc dans mon équipe, mais il a fait ça à McGill avant nous. C'est un système où c'est augmenter le corps avec les objets, les périphériques prosthétiques. Et il peut détecter le mouvement des objets, et le danseur danse avec, c'est un partenaire, elle danse avec, et aussi ça capte son mouvement et c'est lié avec le son. Alors je vais montrer quelques exemples pour le dispositif comme ça, et ça c'est Joe, et il montre qu'on peut détecter la position de chaque colonne vertébrale portée par le danseur, et on peut aussi créer le son. Et là, c'est le résultat, un morceau qui s'appelle Les Gestes. Et c'est la musique réelle, on peut dire, et aussi augmentée par les artistes, les danseurs qui créent la musique. Et là, ils ne sont pas en train de porter la colonne vertébrale, ils portent le viseur qui capte le mouvement. Elle peut toucher, porter, interagir avec. Voilà. OK. Ça, c'est la transition. Le troisième sujet, c'est l'interaction haptique. Alors, il faut comprendre un petit peu sur la partie haptique. Le sens de touche, c'est hiérarchisé et il y a des captures tactiles dans le pot. On peut détecter la chaleur, pression, vibration, glissement, douleur. Il y a aussi l'autre partie, c'est la proprioception. Ça, c'est notre connaissance de notre position du corps, la force, le mouvement. Et la plupart des interfaces haptiques se concentrent sur l'un ou l'autre. C'est difficile de faire tous en même temps. Il y a des choses comme le torque de Microsoft qui peut capter la pression. Il y a aussi, ça c'est intéressant, ça joue avec la perception entre les illusions de perception et la haptique pour profiter, pour faire une interface plus...
Haptic retargeting is a technique that enables haptic feedback for multiple virtual objects using a single physical prop. We leverage the dominance of human vision over proprioception to allow for unnoticeable warping of the workspace to map a single physical object to many virtual ones. For example, our framework allows for arranging a castle of blocks with a single physical cube. Also, the haptic response of stacking cubes can be provided by redirecting the cube to the table's surface.
L'idée, c'est physiquement, il y a un seul bloc, mais virtuellement, je peux faire plein de blocs. Et je joue avec le système de perception visuelle de l'utilisateur pour donner l'impression qu'il y a beaucoup de blocs, même s'il y a un seul. Il y a aussi quelque chose qui est un peu bizarre, mais on peut utiliser le canal haptique en sortie. Par exemple, contrôler les mouvements. Ça, c'est l'équipe de Pedro Lopez. Et là, son bras, c'est pas lui. Il ne contrôle pas son bras. Il fait les systèmes ici, il peut bouger la pouce. Et c'est ce système-là qui bouge sa pouce, qui bouge la poignée. Encore une fois, c'est pas lui qui fait ça. C'est le système qui fait ça à lui. Ce système-là, ça c'est le même système VCON, capture d'émotion, très précis, ce que nous avons et on utilise en Hollywood pour faire les animations qui sont très naturelles. Alors là, il montre, c'est le système qui l'aide à capter la tasse et ouvrir la porte. Je vais juste montrer un truc un peu plus amusant. Ça, c'est une bombe de peinture. Et l'idée, c'est qu'il faut sécuer avant l'utiliser. Et il donne des gens les instructions. Il faut faire ce dessin.
Ah!
Et le système de force de faire ça. Et voilà. Bon. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais il y aura des situations, je ne sais pas, qu'on peut utiliser ce genre de choses. Dernière chose, c'est les interfaces cerveau-ordinateur. Et on peut capturer n'importe quel signal cérébral, mais comment l'utiliser, c'est toujours une question d'interface, comment le faire. Et il faut traduire. Normalement, les signaux sont traduits en commande. On peut imaginer des autres choses, mais normalement, c'est fait comme ça. Et il faut les relayer à un dispositif de sortie pour effectuer une action souhaitée. Alors là, j'adore, c'est un système que j'ai vu quand on a fait un projet au Centre Pompidou qui s'appelle Dessin Interactif. Et on a montré quelque chose que je vais montrer en quelques semaines. Mais à l'époque, il y avait cette système-là, le brain ball. Et en fait, chaque personne porte un petit, c'est difficile à voir dans l'image, mais porte un petit détecteur des ondes alpha. Et alpha, ça c'est lié avec la partie calme. Alors c'est un jeu où on va déplacer la balle vers l'adversaire, mais on le fait par être plus calme que l'adversaire. Assez difficile. J'ai joué ça avec mon fils 10 ans à l'époque et j'ai gagné toujours parce que c'est impossible pour un enfant de 10 ans de rester si calme pour si longtemps. Alors, regarde ce qui se passe. C'est juste, ils sont là et il faut être calme. Ça, c'est la petite balle. Et on voit que, en fait, cette personne est beaucoup plus calme que lui. Il peut bouger. Et des fois, ça, c'est être relâche, ça sort. Bon, vous avez l'idée, je pense, ça bouge. Et on voit qu'il est plus calme et maintenant, il dit non, je vais être calme. Et ça revient dans l'autre sens. Et voilà, quelqu'un qui pratique le yoga ou les choses zen. Bon, ça suffit. Alors, il y a aussi toute une gamme de choses faites dans ce qu'on appelle les interfaces accessibles. Et l'idée, c'est de rendre les interfaces perceptibles et utilisables par les personnes qui ont des capacités limitées. Et ça peut être quelqu'un qui était blessé, ça peut être quelqu'un qui porte quelque chose de lourd et ne peut pas faire quelque chose. On est tous limités de temps en temps. Et l'idée d'interface accessible, c'est de donner plus de capacité à plus de monde. Et on peut être limité en plusieurs fonctionnalités. Il y a visuel, auditif, physique, vocal, cognitif, neurologique. Et on peut créer les systèmes qui prennent en compte toutes ces capacités différentes.
Alors, you know, when I wake up in the morning,
ça c'est quelqu'un
the first
qui était
blessé.
I want
to do is go straight to my computer.
Et
now I can check my emails. Now I can update my Facebook. I can
yeux.
See what's going on with people that want to get a hold of me.
C'est un
people I need to contact. Toby.
Il regarde.
Technology.
La position où il regarde.
Came up with this eye tracking technology.
Sur le système.
has given this back to me.
Il peut communiquer avec
yeah,
les gens.
Sunshine, how are you?
Good, what's happening?
I cannot tell you how much joy, how much laughter, how much independence it's gave me. It's seriously changed my life. This technology is like an antidepressant because it pulled me out of a hole and it put me back in.
Ça, c'était lui avant.
The driving seat.
Et il était blessé et ça, c'est sa vie. Maintenant, il est dans sa chaise. Mais avec ce système, il peut bouger ses yeux quand même. Et là, l'aide à faire plein de choses différentes. Alors, en fait, il y a énormément de progrès dans le matériel qui détecte les signaux humains. Mais il reste beaucoup de choses à faire pour des formes d'interaction adaptées aux contextes divers. Alors, ça c'est la fin. Ils ont nous dit qu'on a encore quelques minutes avant qu'ils recommencent à 11h05. Alors, je vais juste parler de... Bon, excusez-moi, c'est le grand défi pour nous, c'est de créer des interfaces qui combinent avec succès plusieurs modalités. Ce que j'ai parlé, c'était les modalités un peu séparées. Quelques exemples sont les choses liées ensemble, mais je passe à Laurence Niguet, qui va parler de multimodalité et comment on les combine et les utilise ensemble. Laurence, c'est un prof à l'Université de Grenoble. Elle est vraiment un pionnier dans l'interaction humaine-machine et c'est un grand plaisir de l'accueillir ici. Je vais utiliser quelques minutes juste pour parler avant de ce qu'on a déjà parlé. Je vais utiliser mes 4 minutes qui restent, 3 minutes. Alors aujourd'hui, leçon 5, on a parlé sur l'interaction multimodale, comment interagir avec tout le corps. La semaine prochaine, on va parler de la réalité augmentée et virtuelle et aussi ce qu'on appelle la réalité mixte. Ça, c'est les objets tangibles et comment on peut intégrer l'informatique avec le monde réel. Là, c'est comment élargir les aspects WIMP avec tout le corps. Ça, c'est pour intégrer avec les objets physiques et perception là. Après, on va dire, bon, c'est pas juste pour une personne à la fois. On peut vraiment communiquer avec les ordinateurs et faire toute une série de choses avec la communication médiatisée. Et dernière chose, je vais parler avec, c'est ce que je fais maintenant dans ma recherche, c'est ce qu'on appelle le partenariat humaine-machine et comment intégrer l'intelligence artificielle dans les interactions humaine-machine. Alors, je pense qu'on peut maintenant inviter Laurence et je vais récupérer mon laptop.